je viens vous acheter votre jardin.
Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais il n'en est pas question.
Mais si, monsieur, tout se vend, tout s'achète. 1 million!
C'est non, c'est impensable.
100 millions!
C'est bon, il est à vous.
CO2, mon ami.
Pourquoi vous êtes venu acheter mon jardin?
Pour en mettre un autre à la place, monsieur, c'est tout simple. Vous allez voir. D'abord, je coupe tous les arbres. Après, je creuse. Un trou, un gigantesque, un énorme, un fantastique trou. Et après, avec ce trou, cet immense trou.
Avec Denis Chessou.
Qu'est-ce que je fais? Une décharge pour les ordures. Attention, des ordures nobles.
Sur France Inter.
Des déchets d'une toxicité mortelle.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, donc à la fois un magazine vigilant mais aussi pourvoyeur de solutions avec Antoine Teboul et Florent Beauvalet à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors on va débuter par une petite humeur animale. Et comment vont nos poules? Je suis arrivé à le dire. Comment vont nos poules? Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé effectivement des poules. Alors je ne parle pas de la poulette qui discute du changement climatique avec sa copine en gambadant dans votre jardin, en franchissant la clôture du voisin, qui picore vos déchets et vous transforme tout ça en un œuf par jour, sans revendication salariale exorbitante. Non, moi je veux parler des travailleuses qui ne voient pas la lumière du jour, qui se bouffent la crête avec la voisine, entassées dans leurs usines de mort, où les mots de souffrance animale ne sont juste bons qu'à allumer le feu. Bonne nouvelle, grâce à la pression, la sensibilisation musclée et indispensable de l'ONG N214, près de 100 sociétés, donc leaders dans le secteur agroalimentaire, grande distribution, restauration collective, hôtellerie, que sais-je, se sont engagées quand même à éliminer les œufs de batterie. Certes, la fin de cet élevage concentrationnaire 3 étoiles n'aura pas lieu avant 2025, date qui tient compte de l'amortissement des derniers élevages en cage mis aux normes, ça s'appelle des cages aménagées. Bon, c'est comme ça. Ça, c'était en 2012. Alors, à terme, on peut espérer que ce changement s'inscrive dans une loi. Et peut-être, j'ai bien peut-être, qu'une interdiction voit le jour, comme en Autriche, en Suisse et comme l'Allemagne prévoit de le faire. Bon, alors attendons encore quelques années avant de nous réincarner en poule pondeuse. Mais on est quand même sur un chemin qui est plus aéré hein, pour se dégourdir les papates avant de passer à la cassolette. Donc, que la persévérance et la prise de risque de L214 soient remerciées en secouant fortement le tiroir à couteau de la batterie de cuisine. Mais oui, vous savez ce que c'est qu'un écolo? C'est sensible, hein. Mais en mangeant son omelette, en chantant poule sentimentale, ça peut regarder aujourd'hui à galinacer les œufs dans les œufs. Oui. Et dans notre cuisine? Ah, alors là, ce ne sont pas les casseroles qui manquent au râtelier. Non, en magasin, on trouve aussi le séchoir électrique à fond marin. Alors, je vous explique. Avant de succomber à votre envie de vous réincarner cette fois en poisson des mers européens, nos amis pêcheurs néerlandais partent d'une bonne intention. Ils souhaitent apporter en fait l'électricité aux poissons, sans doute pour leur permettre de regarder la nouvelle formule de Thalassa. Non, c'est la pêche électrique. Méthode de barbare batave qui assomme, brise, écorche et fait table rase des fonds marins. Alors là, aucune chance de s'en sortir. Hein. Quand on est né sous le signe du poisson, en appelant vite le SAMU, c'est pas possible. Dérogation donc pour nos voisins qui explose les quotas de pêche. Et l'armateur néerlandais vous soutient, alors absolument tranquille, que c'est une pêche écologique. Oui, plus efficace que la pêche habituelle, car on économise du fuel, et donc on est dans les clous des accords de Paris. Ah oui, c'est comme ça, c'est pas triste. La commission pêche du Parlement européen s'est prononcée pour en vote indicatif, alors stratégie de court terme qui assèche la ressource, qui met au chômage d'autres pêcheurs. Le vote définitif, je vous en parle pourquoi, parce que ça a lieu cette semaine, c'est le 16 janvier. Et dans le fond, être poisson rouge et tourner toute la journée dans son aquarium, en oubliant tout à chaque tour, est-ce que c'est un si mauvais destin? Allez, déchets story aujourd'hui dans cette émission, car si l'ami Eugène, préfet de la Seine, qui introduisit son éponyme poubelle dans les années 1880, revenait faire un tour aujourd'hui, il serait assez interloqué peut-être par la manière dont nous gérons nos déchets. Alors certes, le Paris de l'époque d'Eugène Sud, de Victor Hugo du 19e était quand même assez cradingue, et le contenu des pots de chambre s'égayait joyeusement dans les rigoles, donc on a fait quand même beaucoup de progrès, mais les chiffonniers récupéraient quasiment tout, hein, jusqu'au pot de lapin, et les éboueurs évacuaient donc les boues vers les terrains maraîchers ceinturant la ville. Et alors, nous avons 3 jeunes femmes, je vous le disais, autour de cette table. Elles doivent à peu près avoir 85 ans, elles 3. Vous voyez, donc c'est vous dire qu'elles sont jeunes. Ben oui, vous êtes, c'est exactement ça. Vous êtes tout jeunes, tous les trois. Je vais commencer par vous, Flore Berlingen, parce que vous êtes la directrice de Zero Waste. Alors ça, c'est intéressant. Vous avez une trentaine d'années. Et alors Zero Waste, en quelques mots, donc rappelez-nous ce que c'est, parce que c'est important, ça.
Zero Waste France, donc waste, ça veut dire zéro déchet, ouais, et zéro gaspillage. C'est important de repréciser
de lier les deux,
parce que c'est deux choses un petit peu différentes. C'est une association qui existe depuis 20 ans et qui travaille à la réduction des déchets, tous les déchets, et à la vraiment à la prévention, en fait, plutôt que qu'à la recherche de solutions une fois que le dommage est fait.
Et ça fait des petits, en fait, après, aux États-Unis, parce que moi je pensais qu'au départ, Zero Waste, ça venait des États-Unis. Non, ça part de la France.
Alors, il y a eu plusieurs initiatives un petit peu en même temps, ouais, et ça montre que le moment est venu de questionner aussi la manière dont on consomme et dont on produit actuellement. Aujourd'hui, en France, c'est sûr qu'on a un dynamisme particulier avec des initiatives locales, notamment. Notre association a déjà 35 groupes locaux, et ça s'est vraiment multiplié ces deux dernières années. Donc ça montre qu'il y a un intérêt particulièrement en France. Et quand on compare avec nos homologues dans les autres pays européens notamment, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un an, deux ans d'avance sur ces thématiques-là.
Flore Berlingen, vous êtes arrivée dans ces déchets comment? Vous avez fait Sciences Po, puis après comment ça s'est passé? Ou peut-être même avant, vous étiez sensibilisée?
Pour moi, c'était vraiment le fait de réaliser que les problématiques sociales auxquelles j'étais sensible étaient vraiment intimement, étroitement liées aux problématiques environnementales. Qu'en fait, c'était les mêmes causes, les mêmes raisons, si on creuse un petit peu, des origines communes et notamment la question des inégalités. Et donc, en fait, finalement, travailler aux problématiques environnementales, c'est aussi essayer d'avancer sur le plan social. Et donc, c'est pour ça aussi que je milite pour qu'on n'ait pas cette image des écolos comme se souciant que de la planète, parce que c'est réellement pas le cas.
Et oui. À vos côtés, Aline Gubry, qui a 22 ans, qui a fait donc un master en environnement à la Sorbonne et qui vient de sortir cet ouvrage aux éditions Thierry Soucard, qui s'appelle « Zéro plastique, zéro toxique ». Alors, vous êtes aussi sacrément en avance. Moi, je sais pas quelle... Enfin, non, pas dire en avance. Vous êtes là-dessus. Comment vous êtes tombé, on va dire, dans le recyclage, dans l'anti-gaspillage, dans le moins de déchets possible?
Alors, bonjour à tous. Le recyclage, zéro déchet, c'est au-delà du recyclage, hein, oui. C'est aussi réduire à la source. Mais c'était il y a 2-3 ans, je suis tombée par hasard sur un article sur Internet qui parlait du zéro déchet, le fait de ne presque pas avoir de poubelle chez soi. Et d'abord, j'étais assez sceptique, comme tout le monde, je pense, quand on entend parler du zéro déchet pour la première fois. Et puis, moi qui ai toujours été éduquée avec une certaine conscience environnementale, je m'y suis mise et j'ai réalisé que mes déchets que je produisais tous les jours, ma poubelle que je sortais toutes les semaines, avait un impact énorme, un impact environnemental, qu'il soit global ou local, puisque ça pollue l'air et nos terres à nous, dans notre région. Et j'ai décidé d'agir quand j'ai réalisé ça. Et quelques années après, j'ai créé mon blog Consommons Sainement pour partager mes recettes très simples, mes astuces pour réduire ces déchets au quotidien et à la fois protéger sa santé et l'environnement et en plus faire des économies.
Bah écoutez, ça marche plutôt pas mal. On reviendra évidemment sur cet ouvrage. Alors, un autre livre que j'ai entre les mains, et puis aussi des très bonnes choses, elle vous a préparé, donc Marie Cochère. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors là, vous revenez, c'est deuxième saison, si j'ose dire, parce que je vous avais déjà invité donc
tout
une fois à la sortie du livre qui a cartonné. Hein. On est à pas loin de 20 000 exemplaires aux éditions Erol, les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire. Et vous aussi, comment vous êtes intéressée à cela au départ?
Alors, de par mon métier de journaliste, puisque je vais à la rencontre de producteurs très souvent, donc je connais bien leurs problématiques, et du coup j'avais vraiment envie de soutenir leur production, donc il y avait ça avant tout, revaloriser le produit, savoir d'où il vient, et puis après je suis maman de deux enfants, et du coup là aussi je sentais que j'avais un rôle à jouer dans l'éducation et dans la sensibilisation auprès des plus petits.
Mais alors les épluchures quand même.
Alors les épluchures, ouais. Je suis tombée dedans en mettant les mains à la terre surtout, en me rendant compte au départ qu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient servir comme d'engrais naturels. En tout cas, il y avait plein de voies de recyclage possibles et j'avais cette sensation que tout s'était oublié en l'espace de quelques années et que j'avais grand intérêt à aller voir les anciens, essayer de comprendre comment ils faisaient, puisque eux ne jetaient pas grand-chose, et qu'ils ont encore cette mémoire-là du rien jeter. Donc l'histoire a commencé comme ça. Et puis après, je me suis vraiment prise au jeu, parce qu'on en parlera certainement après, mais j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. C'est très ludique, c'est très gratifiant de transformer et de ne pas jeter. Et voilà, on y met la main et puis le coude et puis...
Et après, c'est parti. Donc, Marie Cochard, Aline Gubry et Flore Berlinguen, donc avec nous. On parle des déchets, on va vous donner des trucs, des astuces. Le tout avec le sourire, tout va bien. Vous êtes sur France Inter, c'est Au-delà de mon amour. C'est parti avec la première chanson.
Tu vois revenir de l'enfer, ne t'apporte rien. Pas d'adversaire, juste un visage en gros plan qui est ton seul adversaire. Du soir au matin, sommes-nous des sauvages qui au bord de l'eau brûlent leur feuillage, rêve d'ambition, de colère, de rage, d'effrayer les loups juste après l'orage. Tu cherches sans fin le sens de l'histoire. Va creuser un abri, parie sur l'espoir.
Excusez-moi, monsieur, j'ai acheté ça chez vous et...
Et quoi?
J'aimerais savoir ce que c'est.
Des doigts à l'huile d'olive. Pourquoi?
Mais ouvrez les yeux, monsieur, c'est des doigts.
Et alors, pensez trouver quoi dans la boîte? Des sardines?
CO2, mon amour.
Bon, écoutez, monsieur, ça fait 53 ans que je suis dans le métier. J'ai vu arriver le lait concentré, puis j'ai vu le cassoulet en tube, les eaux plats lyophilisés, le Saint-Émilion en poudre. Et aujourd'hui, les aliments pour ces connards de chiens prennent plus de place dans ma boutique que les nourritures pour bébés.
Denis Chessou, sur France Inter.
Eh ben voilà, c'est tout ce que vous préconisez, hein, Marie Cochard, dans votre ouvrage de Zonk sur les épluchures.
Oui, tout à fait. Alors, naturel.
Tout ce que vous pouvez en faire donc, de ces fameuses épluchures, on va y revenir. Ce que je vous propose, c'est d'abord de proposer un peu le décor, c'est tout à fait intéressant. On va reprendre un extrait du film Demain de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. Et on va retrouver Julie Bryant, donc, qui est la coordinatrice Zero Waste à San Francisco.
Zéro déchet signifie que tout est réduit, réutilisé, recyclé ou composté, que rien ne va dans les décharges ou n'est incinéré.
Et où en êtes-vous dans ce processus?
San Francisco recycle 80% de ses déchets. Cela inclut ce qui est généré par les logements, par les entreprises commerciales et les chantiers d'urbanisme. Nous fournissons les moyens. Il y a trois poubelles. Verte pour le compost, bleu pour le recyclage et noir pour le peu qui reste. La loi exige désormais qu'habitants et entreprises recyclent et compostent.
C'est une obligation. S'ils ne le font pas...
Oui, on peut avoir une amende si on ne recycle pas correctement. Chaque habitant et chaque entreprise paie pour le compostage et le ramassage des déchets. On les facture tous les mois et ils obtiennent une réduction selon le volume de matériaux qu'ils ont détourné des décharges. Cela peut faire gagner des milliers de dollars par an. L'État a économisé plus de 3 millions de dollars.
Très concret, très pragmatique, donc Zero Waste à San Francisco avec les voix de Camille Blanès et de Eric Oswald. Alors là, vous connaissez bien le sujet, vous vouliez réagir tout de suite, Flore Berlingen, je le rappelle, vous êtes la directrice de Zero Waste en France.
Oui, en fait, il y a certaines des choses qui sont évoquées dans le sujet qui sont tout à fait possibles et applicables tout de suite en France. On peut trier plus d'ores et déjà si on le veut, et on peut appliquer ce qu'on appelle la tarification incitative. C'est une autre manière de facturer le service public de traitement des déchets et avec des résultats.
Ça veut dire qu'il faudrait taxer plus l'incinération et la mise en décharge, que c'est quand même ça aussi le gros du volume aujourd'hui.
Oui, ça c'est aussi un autre sujet. Il y a une taxe qui s'appelle la TGAP, c'est la taxe générale sur les activités polluantes. Mmh. Aujourd'hui, elle taxe la mise en décharge et l'incinération, mais de manière qui nous semble insuffisante pour que ce soit réellement incitatif au recyclage et à la réduction, surtout à la source.
Oui, en gros, c'est
il faut renchérir en fait ces modes de traitement des déchets qui sont polluants afin de rendre les alternatives plus intéressantes et plus attractives.
Alors pour que ça fonctionne ces alternatives aussi, parce que l'entrée n'est pas forcément écologique, mais c'est aussi faire des économies, par exemple, quelle que soit la motivation, peu importe du moment qu'on y va. Ce que vous vouliez dire, c'était quoi? Il y avait d'autres systèmes incitatifs?
Oui, alors du point de vue de l'individu notamment, la tarification incitative, c'est ce qu'on paye au niveau de chaque foyer pour l'enlèvement des déchets.
Oui.
Et c'est un mode de tarification dans lequel vous payez en fonction de ce que vous jetez et notamment de ce qui n'est pas trié. Donc c'est un mécanisme qui est évidemment incitatif au tri et à la réduction à la source.
Et ça peut marcher, ça, en France? Parce que...
Ça marche déjà en France, en fait. Il y a déjà plusieurs millions de personnes qui sont couvertes par une tarification incitative. Ça peine un petit peu à se développer, mais ça fait partie des sujets sur lesquels notre association est assez active, parce que les résultats sont immédiats. C'est des réductions de déchets de l'ordre de 20 à 30%. Donc, en fait, les moyens, on les connaît, on sait ce qui fonctionne. Maintenant, il faut un peu de courage politique aussi pour l'appliquer de manière immédiate au niveau local.
Aline Gubry, je reviens sur San Francisco, parce qu'en fait, vous connaissez aussi Julie Bryant, donc la responsable de Zero Waste, donc pour cette ville. Et vous avez été là-bas, vous avez travaillé aussi pour eux.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai travaillé pour la municipalité et donc j'ai eu la chance de participer de l'intérieur à la politique zéro déchet de la ville.
Ouais.
Et effectivement, quand on vit là-bas, on a effectivement ces trois poubelles. Donc en plus de nos poubelles classiques à nous, du recyclage et du non recyclable, on a cette poubelle verte qui est réservée aux biodéchets, donc tout ce qui est restes alimentaires, résidus de plantes vertes, etc., qui vont être compostées industriellement après. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de trier et on n'a pas à faire le pas d'avoir un compost chez nous, même si ça reste très facile pour nous en France. Même si on n'a pas de jardin, on a tout à fait la possibilité de composter nos restes alimentaires ou nos déchets verts, alors que ce soit par les composts collectifs qu'on trouve en bas d'immeubles ou dans certains parcs publics, ou alors chez soi, on peut avoir un compost d'intérieur, un compost de cuisine, que ce soit par le lombricomposteur ou par la fermentation. C'est des petits compost qui prennent vraiment pas de place, que vous pouvez mettre sous l'évier et vous mettez vos biodéchets comme ça et en quelques semaines ou mois, vous avez un compost, un engrais génial pour vos plantes.
Et alors, les épluchures, Marie Cochard, quand même, on a besoin d'avoir, j'allais dire, quelques trucs, quelques astuces, tout ce que vous pouvez en faire donc aux éditions Erol. Là, vous nous avez apporté des tas de choses, on va pouvoir y revenir, mais si je prends une peau de banane, qu'est-ce que j'en fais de ça, la peau de banane?
Parce qu'avant de penser compost, parfois on peut se servir de notre biodéchet pour autre chose. Et moi, j'ai compacté tout ça en un abécédaire parce qu'on a oublié tous les bienfaits qu'il peut y avoir dans les épluchures, par exemple. Donc, le cas de la peau de banane
B
est
comme
intéressant.
Banane, voilà.
B comme banane. Donc, la banane, on peut blanchir ses dents avec les peaux. On peut s'en servir...
On y va doucement. C'est-à-dire, je prends la banane, je la frotte sur mes dents.
Oui, le côté blanc, hein, pas l'extérieur. Ouais. Et en fait, on se lave les dents, bien sûr, après, bah parce qu'il va y avoir des résidus. Mais en tout cas, il y a une substance dans la peau de banane qui va blanchir vos dents à peu près en une semaine, 15 jours. On voit une différence. C'est aussi un excellent raviveur de cuir. Donc, on peut s'en servir sur... son canapé, son fauteuil club, son sac à main, sa veste en cuir, pourquoi pas ses petites chaussures. Et donc, c'est aussi très ludique. Top, ça permet d'éviter également un achat. C'est beaucoup plus sain. C'est aussi le cas des écorces d'agrumes. J'en parle parce que là, c'est un produit de saison.
Alors, les écorces d'agrumes, on va se prendre quoi ? Du citron, des clémentines, des oranges ?
Alors, on va se prendre des citrons parce que c'est antibactérien. Et puis, on va mélanger ça à du vinaigre ménager et de l'eau. Et puis, on va laisser macérer tout ça pendant une quinzaine de jours.
Alors, vinaigre blanc, de l'eau,
des écorces.
Des écorces, oui, 15 jours.
Les écorces vont permettre d'ôter cette odeur pas forcément très agréable et oui, un peu pugnace du produit ménager.
J'aime ce mot, une odeur pugnace.
Non, mais tout c'est, à fait, je trouve bien. Que ça reste et c'est assez entêtant.
Oui, oui.
Et donc du coup, ça va permettre d'annihiler ça. Et puis, il y a évidemment des propriétés antibactériennes dans le citron. C'est un anti-tache. On peut se détacher, vous savez, les taches brunes là, sur les mains ou sur le visage avec ces écorces de citron. Donc voilà.
C'est
donc,
toujours mieux que les autres liquides, en tout cas.
L'idée, c'est d'avoir toujours de penser à ce qu'on pourrait faire de notre peau ou de alors ça peut aussi être je sais pas du marc de café on peut faire pousser des champignons dessus, il y a une société qui fait ça sur Paris plusieurs
oui.
et j'avais aussi mis en avant pas mal d'initiatives de personnes qui ont poussé le vice jusqu'à créer une activité professionnelle autour d'un biodéchet. On parlait tout à l'heure en off de ce monsieur en Belgique qui a eu la merveilleuse idée de contacter un brasseur pour faire de la bière à partir d'un vendu de pain. Et donc, ça donne un goût toasté à la bière, ce qui fait que la bière s'est vendue comme des petits pains, si je puis me permettre. Et donc, ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, plutôt que de voir ce qui vous reste comme un déchet, il faut aussi parfois voir un petit peu de côté, changer d'angle et voir ça comme une ressource.
Alors, il y a quelqu'un qui change d'angle et qui est très intéressant aussi, donc ce regard sur nos déchets. Et Henri Jantet, que j'ai interviewé, est fondateur d'un cabinet de conseil en innovation qui s'appelle Unhouse et qui est à l'initiative d'une étude sur les déchets qui est parue il n'y a pas tellement longtemps, hein, c'était au mois de novembre, qui s'appelle « Le déchet n'existe pas ». Alors voilà, c'est le rapport des individus aux déchets ménagers et au tri, donc à la lumière des sciences sociales.
Il n'y a pas de déchet dans l'absolu. Il n'y a qu'un regard qu'on porte sur un objet. Ce qui fait qu'un objet devient un déchet, en fait, on a trois grands facteurs qu'on a identifiés. Le premier, c'est est-ce qu'il a une place physique ? Est-ce que je peux finalement le stocker, le garder pour qu'il ait une deuxième vie ? Le deuxième grand facteur qui fait qu'un objet devient un déchet, c'est est-ce qu'il appartient au passé ou est-ce qu'il a un futur et un présent ? Et donc, dès qu'il appartient au passé, au final, je le considère comme un déchet. Donc, un des enjeux, ça va être de toujours lui redonner de la vie. Et le troisième sujet fondamental de l'arbitrage, c'est la perception de saleté. Oui. Et le rapport à la saleté et les normes d'hygiène, qui sont généralement des héritages familiaux extrêmement forts et qui viennent influencer la perception qu'on va avoir d'un objet. Donc si je prends cette bouteille plastique que vous avez là, cette bouteille plastique qui est à moitié vide, si vous avez des normes d'hygiène très fortes, vous allez considérer que c'est un déchet parce que moi j'ai bu dedans, donc c'est dégoûtant. Si par contre vous acceptez plus facilement ce genre de proximité, vous allez la boire. Et donc, vous allez considérer qu'elle a encore un présent et un futur, parce qu'elle n'est pas vide. Et une fois qu'elle sera vide, vous allez de nouveau réarbitrer entre ces différents éléments.
Aujourd'hui, donc on parle énormément du recyclage, on parle énormément aussi donc d'économie circulaire. C'est jamais que ce que faisaient nos anciens, hein, mais on va dire un petit peu amélioré. Donc là, où en est-on ? Parce que moi, cette fameuse bouteille, moi je la vois éventuellement comme un futur, je sais pas, pull vert ou autre chose, donc comme une matière qui va continuer son petit cycle de vie.
Vous la voyez comme ça parce que vous êtes très informé et très au courant. Quand on observe les gens dans leur quotidien, donc on a observé des gens dans des situations les plus diverses possibles, parce que justement on cherche à avoir des profils les plus écartés possibles, les plus radicaux possibles pour comprendre ce qu'ils ont en commun. Eux, ils ne le voient pas comme ça parce que c'est très loin. La distance qu'il y a mentalement entre cette bouteille et un pullover, elle est énorme. Par contre, si vous me dites, cette bouteille, je peux la couper en deux pour faire, et si on observe, il y en a un qui coupe en deux et qui fait des déshumidificateurs d'air avec de l'argile.
Oui.
Parce que sa maison est humide, donc il le coupe en deux. Ça, c'est très proche. On a observé la même chose avec le verre. Le verre, il y a le fait de le casser dans le container, ça rend les gens acteurs du processus de recyclage et ça le rapproche d'eux. Et donc, ils y croient beaucoup plus. C'est-à-dire que la crédibilité de la chaîne de recyclage est très forte parce que j'ai participé à transformer cette bouteille en la cassant en quelque chose qui ressemble déjà plus à une matière première.
Donc déjà, il faut faire un geste, quoi. C'est une façon de se l'approprier pour
exactement,
lui donner un avenir. On est comment, nous, Français ? On est un peu moyens, quand même, aujourd'hui, là-dessus.
Il y a trois grandes attitudes. Il y a les convaincus, d'un côté. Les convaincus, c'est des gens qui vont regarder tous les objets avec beaucoup de bienveillance.
C'est ça.
Et qui vont toujours essayer d'en faire un objet, de le conserver en tant qu'objet le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils se résignent finalement à le considérer comme un déchet s'ils n'ont pas d'alternative. Il y a l'attitude complètement inverse qui est celle des récalcitrants et on en a rencontré. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans le refus de la manipulation du déchet. Parce que ce qui les caractérise le plus, c'est leur norme d'hygiène. Et c'est sale. Et donc, ils ont chez eux d'ailleurs des plus petites poubelles que les autres. Ils les vident plus souvent. Pour que ça tombe plus vite, parce qu'ils ne veulent pas manipuler, conserver des déchets. Ça, ils ne vous le diront pas, ça, on l'observe.
Ouais, c'est ça.
Par contre, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils disqualifient la chaîne de tri. Ils disent, finalement, dans mon conteneur, il y a quelqu'un qui a mis une pelure de pomme, alors de toute façon, ça ne servira à rien de trier. La façon de s'en sortir quand je suis un récalcitrant, c'est de dire, la chaîne de tri, c'est pas vrai, ça ne marche pas, voire de dire, finalement, les Russes et les Chinois polluent plus, donc il n'y a pas de raison que je fasse de l'effort. Donc ça, c'est des attitudes extrêmes. Et au milieu, il y a une énorme masse de gens qu'on appelle les intermittents, qui sont des gens qui répondent à cette norme sociale du tri, mais qui essayent de le faire dans une vie qui est déjà bien remplie, et ils essayent du coup de trouver un moyen de le faire à minima. Et pour le justifier, ils utilisent toutes les faiblesses de la chaîne de tri actuelle. Ils disent en fait, la brique de lait, s'il y a du lait dedans, je ne sais pas si j'ai le droit de l'acheter. Donc en fait, par défaut, je ne réfléchis pas, je la jette avec le tout venant. Et ils trouvent comme ça des manières de forcer un arbitrage, parce qu'en fait, chaque moment où vous jetez quelque chose, il y a un arbitrage. C'est incroyablement compliqué de choisir. Et donc, j'essaye toujours de trouver des routines d'arbitrage. Je décide que dès qu'il y a du liquide dedans, je ne recycle pas, par exemple. Ce sont des méthodes qui permettent de choisir plus vite ou de ne plus avoir à choisir. Et ces gens-là, c'est vraisemblablement là qu'il y a encore un levier de progression considérable.
Allez, au boulot. Bah, tu mets, qu'est-ce que tu fous?
C'est vous, putain, qu'est-ce que vous faites?
Je bosse. Tiens. Ah ben déjà, elle est pas en cloque. Hein.
Qui ça?
Adjani.
Elle bouffe des raviolis, Adjani? Mais pourquoi vous fouillez dans ses poubelles?
Elle a un nouveau mec, tiens. Vérifie ça.
C'est quoi ça?
Des médicaments, on sait jamais, elle a peut-être un truc.
En tout cas, le sida, elle l'avait pas. Space fond.
Il y a des spas, ben dans mon rapport.
Céphile.
Migraine.
Malox.
Acidité, gras d'estomac, c'est le stress, ça les bouffe tous.
Vous avez parlé de la consigne, ça c'est très intéressant, parce que donc les Anglais continuent aussi en grande partie à avoir de la consigne, on les sent pas forcément plus malheureux, ça n'a rien à voir avec le Brexit, mais aujourd'hui on va vous dire « Ah bah attendez, non, si c'est de la consigne, ça va être terrible, on va revenir comme avant, avec toutes les bouteilles, etc. et tout, ça va être très très compliqué. » Et pourtant, c'est une piste.
C'est une piste parce que un objet qui a de la valeur ne peut pas devenir un déchet. Je sais pas si vous avez déjà essayé de jeter une pièce de monnaie, c'est moralement impossible. La chaîne de recyclage finance parfois le coût de collecte, donc en fait subventionne la collecte, ça devient en fait un coût caché. Peut-être qu'il faut le rendre visible et peut-être qu'il faut acheter les déchets des gens. Ah. Si on les achetait au kilo, peut-être que ça leur donnerait de la valeur. Donc cette piste de la valeur, elle est multiple.
Ce que font par exemple les Chinois avec aussi des grands lots de plastique que nous, on peut collecter et compacter. Hein. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ça a une valeur quand même,
oui.
Tout ça.
Oui. Bah, aux États-Unis, ça continue. Hein. Aux États-Unis, tout le monde ramène ses canettes au mall le samedi parce qu'elles sont achetées en échange de bons d'achat. Alors, c'est un système qui commence à se développer en France, mais qui est très peu connu encore. Et puis, il y a un troisième sujet qui est les normes d'hygiène, qui sont très difficiles à bouger parce que c'est des héritages familiaux souvent assez ancrés. Il y a sans doute un travail à faire là sur qu'est-ce qui est sale. Et qu'est-ce qui est moins sale, et qu'est-ce qui est grave et pas grave. Et il y a un exemple, moi, que je cite souvent, que j'aime beaucoup, qui est une campagne brésilienne de 2009, qui a incité les gens à uriner sous la douche pour économiser de l'eau.
Tout à fait.
Ça paraît un geste compliqué à promouvoir en télévision.
En télé, ça ne va pas le faire, ça.
Et si, ça l'a fait. Ça a marché.
Et ouais.
Ils ont fait évoluer la représentation d'hygiène sur le sujet de... sujet aussi un peu compliqué quand même, qui est celui de l'urine. C'est, et avec un autre argument qui était le fait que l'urine est quelque chose de stérile, qui ne porte pas de germes. Et ça, c'était quelque chose que les gens ne savaient pas.
Voilà, donc Henri Jandet, intéressant hein, d'avoir donc ce regard avec cet homme, avec une approche, on va dire, sociologique sur le déchet. Petite réaction peut-être de votre part, Flore Berlignone, donc directrice de Zéro Waste. Et alors, tiens à le dire, je ne t'ai pas dit tout à l'heure quand même, il y a cet ouvrage hein, aux éditions Rue de l'Échiquier, c'est Zéro Waste, zéro déchet, zéro gaspillage, on passe à l'action. Voilà, je vous en prie.
Merci. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur qu'on vient d'entendre insiste beaucoup sur la notion de regard porté sur les déchets ou beaucoup sur les objets qui nous entourent et notamment tous les objets qu'on utilise dans notre vie quotidienne et dont parfois, parce qu'ils sont cassés ou parce que simplement on est un peu lassé, on en vient à les considérer comme des déchets, à les abandonner. Et c'est justement ça, cette image qu'on essaye de changer en ce moment à travers d'un projet qu'on a lancé en tout début d'année, qui est un défi.
Le défi qui s'appelle Rien de neuf.
Exactement.
Ah, c'est intéressant.
Voilà,
ça.
C'est le défi, challenge collectif, parce que n'importe qui peut participer, nous rejoindre dans cette expérience, qui est de ne pas acheter de produits neufs en 2018 ou quasi pas, ou en tout cas de se poser systématiquement la question avant d'acheter quoi que ce soit, de savoir s'il n'y a pas une alternative d'occasion ou en location ou simplement réparation d'un objet qu'on a déjà.
C'est génial parce qu'on fait ça un week-end de solde, vous voyez, tout le monde est...
Exactement, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on est en plein dans l'actualité. Et en fait, ce défi, il est parti d'un constat de bon sens, c'est qu'il y a plein d'objets déjà en circulation. Et donc, pourquoi en rajouter encore? Pourquoi extraire de nouvelles matières premières alors que finalement, tout l'électroménager dont on a besoin, tous les vêtements, tous les livres, en tout cas les classiques, sont déjà en circulation.
Mais parce qu'il y a le marketing, parce qu'il y a l'impulsion, voilà. Parce qu'il y a la pub et c'est comme ça qu'on fonctionne aussi.
Mais on peut résister petit peu à ça par justement un jeu, parce qu'il ne faut, pas être uniquement dans le sacrifice, bien sûr. Là, l'idée, c'est au contraire, c'est d'essayer de se creuse un petit peu la tête à chaque fois, c'est finalement être un petit peu plus créatif aussi au quotidien, plutôt que d'avoir le réflexe de sortir sa carte bancaire et puis d'aller dans le premier magasin, essayer de trouver d'autres façons de consommer. Et tout ça, ça a un effet de levier, parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte en tant que consommateur final, c'est que derrière chaque objet, derrière notamment ce smartphone par exemple, il y a une quantité de matières premières qui ont été consommées dans le processus de production, qui est considérable et qui est bien plus importante que le résultat, c'est-à-dire l'objet. Donc, par exemple, pour le smartphone...
Nos objets, ce sont des icebergs, c'est la partie émergée.
Exactement, des icebergs de matières premières. Et derrière ce smartphone qui pèse quelques centaines de grammes, il y a en réalité 70 kilos de consommation de matière. Donc, à chaque fois que je vais le faire réparer ou à chaque fois que je vais l'acheter d'occasion, j'ai économisé toute cette matière première.
Donc il y a un côté aussi extrêmement joyeux, on le voit avec vos deux ouvrages, les unes les autres, avec Zéro Plastique, Zéro Toxique, avec vous Aline Gubry, aux éditions donc, Thierry Sugar, c'est que ça peut se faire assez joyeusement, et en plus ça peut se faire vite, il n'y a pas de moralisation, il n'y a surtout pas de culpabilisation dans cette affaire. Alors là, je ne sais pas, si je clique sur le vrac, ça c'est intéressant, parce que je pense que beaucoup d'entre vous déjà commencent, je crois que ça représente 0,5%, en fait, de la consommation aujourd'hui. Mais c'est une vraie demande. Le vrac, quelques mots quand même dessus, acheter en vrac.
Tout à fait. Donc, il existe des astuces zéro déchet très simples pour réduire petit à petit ses déchets dans son quotidien. Et par exemple, le vrac, donc vous savez, c'est ces rayons qu'on trouve dans tous les magasins biologiques et dans certains supermarchés où on se sert nous-mêmes dans nos petits sachets. Alors souvent, c'est tout ce qui est céréales, café, thé, etc. ou biscuits même.
Pâtes comme ça aussi.
Voilà, exactement, ouais. Les pâtes, tout ce qui est aliments secs. Et ça permet, ça a plusieurs avantages. D'abord, d'un point de vue environnemental, ça permet d'économiser beaucoup d'emballage. Et le corollaire de ça, c'est aussi sur le point de la santé. Ça permet de ne pas être exposé à tout, notamment les perturbateurs d'hormones qui sont présents dans nos emballages, souvent en plastique, qui vont migrer pour certains dans nos aliments. Par exemple, il faut jamais acheter une huile dans une bouteille en plastique parce que les perturbateurs d'hormones de la bouteille en plastique vont migrer beaucoup plus facilement dans un aliment gras. Donc, acheter en vrac ou de préférence dans des emballages en verre, par exemple, ça va permettre d'économiser beaucoup de déchets et aussi de protéger sa santé et aussi au passage de faire des économies parce que acheter en vrac, le prix au kilo est moins élevé puisqu'on ne paye pas l'emballage
en lui-même. Moins 15% à peu près, si on fait
exactement.
Une moyenne.
Hein.
C'est à peu près ça. Vous êtes 22 ans, vous êtes au point, vous. Hein. Je sais pas, vous avez été nourri par qui ? Par vos parents aussi ? Enfin,
après quelques années d'expérience zéro déchet au quotidien, on apprend énormément de choses. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que qu'on ne subit plus notre alimentation, nos produits ménagers, nos cosmétiques. C'est qu'on reprend, entre guillemets, le contrôle, mais très simplement, avec des recettes très simples.
Virer les guillemets, hein, c'est ça.
Exactement, et on sait ce qu'on met sur notre peau, on sait ce avec quoi on s'alimente, parce que c'est nous qui l'avons fait très facilement, parce qu'on s'est renseigné sur ce qu'il y a dans nos cosmétiques, sur ce qui est dangereux.
Alors, et donc, crème hydratante, par exemple.
Exactement, bah, la crème hydratante, c'est l'exemple parfait qui illustre le problème de nos cosmétiques et produits d'hygiène actuels dans le secteur industriel. C'est qu'ils sont pleins de perturbateurs d'hormones, notamment, oui. Comme il y a le fameux parabène, mais ça, c'est que la pointe de l'iceberg. Il y a plein d'autres perturbateurs d'hormones qu'on s'applique sur la peau, sachant que la peau va absorber
alors,
ce qu'on lui met dessus.
Ok, moi, ce qu'il veut, c'est la solution.
Okay, la solution, voilà. C'est tout simplement les huiles qu'on a dans nos placards de cuisine. Alors que ce soit l'huile de sésame, l'huile de noisette, ça va très bien aider à hydrater la peau. Et c'est des huiles sèches, donc qui vont être absorbées très rapidement par la peau. Donc ça laisse pas du tout une trace graisseuse dont on peut avoir peur à la base. Si on se met ça tous les jours en massant, en plus c'est très agréable. Et voilà, vous avez remplacé tous vos tubes de crème hydratante par un seul petit flacon qui vous coûte vraiment pas cher.
Dans la cuisine, une chose, d'ailleurs c'est la solution numéro 1, parce que vous avez 101 astuces dans cette affaire-là, dans cet ouvrage. J'adopte l'inox comme matériau préféré dans ma cuisine.
Tout à fait. Alors l'inox est un matériau stable et donc qui est tout à fait sain, contrairement au plastique, à l'aluminium, qu'il faut vraiment éviter d'utiliser.
Vous dites fuyez les poêles et les casseroles anti-adhésives. Hein, donc,
exactement, ça, parce que les colles notamment vont être dégagées à haute température et donc vont aller dans l'aliment que vous mangez et donc dans votre organisme. Et certains peuvent s'accumuler année après année dans votre organisme et cela peut avoir des conséquences comme une augmentation des risques de cancer notamment. Donc c'est protéger sa santé au quotidien.
Bon, soyons cool, on essaie de voir le côté effectivement des solutions. Alors là, entre les mains, Marie Cochard, vous m'avez passé, alors ça c'est très intéressant, je respire, ça sent l'abeille. Enfin non, ça sent pas l'abeille, ça sent la cire d'abeille.
Alors c'est quelque chose de génial qui permet d'emballer ces aliments sans produire un déchet. Donc charcuterie, fromage, petit goûter des enfants. Donc on sait que la cire d'abeille a des propriétés de conservation. C'est d'ailleurs un E quelque chose. Et donc, le fait d'emballer dans ce petit coton enduit de cire d'abeille va permettre de conserver de façon très saine.
Et là, on peut le recycler, parce que l'intérêt de la fleur, c'est ça.
On le fabrique.
Donc, vous le fabriquez.
On n'est pas obligé de l'acheter. Ouais. Il suffit de prendre un morceau de tissu. On prend un petit peu de papier sulfurisé. Ouais. On met des pépites de cire d'abeille entre les deux. On passe un petit coup de fer à repasser, ce qui va permettre à la cire de pénétrer dans le tissu, donc il y en aura sur les deux faces.
Vous n'allez pas encrasser votre fer à repasser avec ça, non ?
Ah ben non, parce que j'ai mon petit papier sulfurisé.
Bien sûr.
Donc voilà, et ça me permet d'avoir un emballage que je vais pouvoir laver à l'eau froide, bien sûr, puisque sinon la cire va avoir tendance à fondre. Mais c'est parfumé très agréablement, et ça permet de transporter en fait tout ce qu'on veut consommer en pique-nique, etc. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que avec la chaleur de vos mains autour d'un saladier, on peut conserver des petits restes. Et en parlant de restes, justement, on a parlé donc d'achat. Et je pense que ce qui est important, c'est surtout, à la base, d'acheter moins. Moins mais mieux.
Ben oui.
Parce que notre génération...
30% quand même aujourd'hui de gaspillage alimentaire, tout compris. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que depuis la fabrication, depuis les champs, jusqu'à nos assiettes, c'est 30%. D'ailleurs, on retrouve tout ceci donc, aussi dans notre aventure presque sans frigo, hein, que vous avez sorti aussi chez Erol.
C'est ça. Alors bon, on m'appelle un peu l'empêcheuse de tourner en rond. J'ai tenté une expérience un peu cocasse, en tout cas assez givrée, qui est de me passer totalement de réfrigérateur pendant un an, histoire de voir comment on pouvait s'alimenter en achetant moins, avec tout à vue, puisque ce qui est intéressant aussi avec l'histoire des bocaux, c'est de tout voir, donc de moins jeter, de prioriser ce qui a besoin d'être utilisé. Et donc, je pense qu'il y a un gros effort à faire aussi de ce côté-là, c'est-à-dire vraiment le fait de vivre dans une certaine frugalité, vous revalorisez ce que vous avez. Vous en avez moins. Moi, je fais mes courses une fois par semaine. Par contre, voilà, je vais dans mon magasin fermier au Cutéreux. Très bel endroit, Denis, au passage, si vous pouvez y faire un petit tour.
Ça s'appelle le Cutéreux, c'est ça ?
Les Cutéreux.
Bien sûr, oui.
Ils assument leur provenance et leur activité. Et donc, soit ça, soit la cueillette, et j'emmène les enfants. Et du coup, on revalorise vraiment, on donne une valeur ajoutée à l'aliment. Et on va essayer, du coup, de tout utiliser.
Donc, rien contre la musique, sinon les unes les autres, tout va bien, c'est bon, on va voir cycler un disque.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou sur France Inter. There I lay beside the Great Dane, astray in the south, obsessed by your mouth. And you been away for the fall. I've barely seen you at all. Impressions over you, blue like bikini at all. Shallow pain, but it's not deep down. Cigarettes while you're asleep now. I've taken less care, I feel weak now. You said you was flying to Milan in about a week now. I don't mind to reignite the fire besides from that weed we light. If you try to ask me why, the fact that I've lied and you're tired of that, well, I don't blame, I'll only claim to be in a state that closure was the way. She exposed my name, and now I'm supposed to tell you all them times and them places, but I'm still developing. Enveloped in the elephant of the room, I'm already in. I don't give up, it's irrelevant. You've been away for the fall. Barely seen you at all. You've come and seen me at school, and you'll realize that I'm no cool. Shallow pain, but it's not deep down. Cigarettes while you're asleep now. When I've taken less care, I feel weak now. You said you was flying to Japan about a yo. But I don't mind to reignite the fire besides from that we light. And if you try to ask me why, the fact that I've lied and you're tired of that, I don't blame, I'm only claiming. That closure was the way. She exposed my name and shame now. Time is in their place, but I'm still developing. Enveloped in the elephant of the room I'm already in. I don't give a fuck, it's irrelevant. Different girls with the same issues, chains, pearls, and tissues. Would you change if I claimed I miss you? Words I love you is misused. The struggle and this, you just wanna cuddle and kiss you. Now I'm double muddled and pissed too. I don't mind to reignite the fire besides from that weed we light. And if you try to ask me why, that I've lied and you're tired of that. Only claim to be in a state that closure was the way. She exposed my name and the shame, and I'm supposed to tell you all them times and them place, but still developing. Enveloped in the elephant of the room I'm already in. I don't give a, it's irrelevant.
Eh ben, jeune garçon londonien d'origine jamaïcaine, hein, sur France Inter dans CO2 Mon Amour, c'était Cosmo Pike. Il a une vingtaine d'années, le gamin. Eh ben, il est assez doué, puis on aime bien le soutenir. Ici, dans cette programmation, soyez les bienvenus. Si vous arrivez tout de suite, on a la tête, justement, pour vous faire éviter d'avoir trop de déchets. Voilà. Attendez, la Marie Cochard, parce qu'avec avec votre ouvrage, là, il y a aussi une recette, donc les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire. Mais qu'est-ce que vous nous offrez, là? On a un peu comme chez l'ami François-Régis Gaudry, là. On va manger,
on
un
va
peu
déguster.
En direct. Donc, qu'est-ce que c'est, ça?
Eh ben, en fait, j'ai utilisé des bananes trop mûres, qui étaient bradées, parce que vraiment trop avancées dans le temps. Pour faire une petite confiture banane-gingembre.
Bien.
Et puis, vous avez des pickles de courge butternut aux épices, à la cardamome et à l'anis étoilé.
Et donc, est-ce qu'on peut recycler toutes les épluchures ou bien quand même, il y en a certaines?
Quasiment toutes, sauf les feuilles de tomates qui sont toxiques.
Oui, bien sûr. Ah oui, ça oui,
voilà.
Faut pas.
Et les feuilles de rhubarbe.
En revanche, les pieds de tomates, ils aiment beaucoup les huîtres pilées ou...
Oui, concassées, tout à fait, parce que c'est un apport en calcium, donc c'est vraiment un fabuleux engrais naturel. Ça va permettre aux tomates d'éviter toutes les petites maladies, oïdium, mildiou, etc. Oui. Donc coquilles d'œufs également, toutes les coquilles en fait, en règle générale.
Excellente anti-tartre également.
Excellente anti-tartre, la coquille d'huître. Donc nos grands-mères faisaient ça, en fait elles rinçaient les coquilles d'huîtres et s'en servaient comme d'anti-tartre parce que le tartre il aime se fixer sur une paroi rugueuse, pas lisse. Donc à choisir entre vos toilettes ou la coquille d'huître, il va opter pour le réservoir des toilettes.
Donc réservoir des toilettes, même aussi dans votre lave-vaisselle, vous pouvez le mettre ?
Dans le lave-vaisselle, enfin, dans le tiroir à couvert.
Oui, c'est ça. Oui,
voilà, même. Pour pas que la coquille se balade.
Quand même.
Pareil pour le lave-linge, même chose pour la bouilloire, la cafetière. Voilà, une coquille d'huître à chaque fois différente.
Et alors, Aline Gubry, avec zéro plastique, zéro toxique, quand même, derrière, il y a des gens qui se disent « Ah bah, on peut peut-être faire des économies ». Et c'est le cas, c'est le cas.
Exactement.
Vous avez une vie, je crois, moins 30 ou 40%.
Enfin, oui, c'est ça. Je consomme, depuis que je suis passée au zéro déchet dans mon quotidien, je consomme à peu près 30 fois moins. 30% de moins, bien sûr. Mais par différentes astuces, comme on disait tout à l'heure, c'est acheter d'occasion, acheter chez Emmaüs. Alors comme ça, c'est un achat solidaire, en plus. Acheter un pull à 3 euros, ça nous fait faire beaucoup d'économies.
Enfin, s'il vous plaît, hein, seulement. S'il vous plaît, sinon c'est un peu la serpillière dans les...
Mais on trouve des habits tout à fait encore à la mode, de marques encore tout à fait d'actualité. Hein. C'est pas du tout les habits des années 60 comme on peut penser dans les friperies.
Oui, il n'y a pas de def, oui.
Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, en achetant en vrac, on fait aussi beaucoup d'économies. Et puis, en fabriquant ces produits ménagers ou ces produits d'hygiène corporelle, ces produits cosmétiques soi-même, avec des ingrédients très simples qu'on a en fait déjà dans nos cuisines. Avec de la maïzena, on peut faire un shampoing sec très efficace. Avec de l'huile de coco et du bicarbonate de soude, on fait un déodorant, très simplement, pour quelques centimes, en quelques secondes. Et puis aussi, on peut faire des économies, comme disait Marie Cochard tout à l'heure, en achetant moins, mais mieux, pour tout, que ce soit dans le dressing, en achetant uniquement des vêtements qu'on va porter, en achetant moins d'aliments pour moins les gaspiller, et puis en achetant moins de produits jetables qu'on utilise et qu'on jette en permanence.
Un bon rasoir en inox. Hein.
Exactement, un bon rasoir en inox dont on change la lame une fois par an, deux fois par an. Ça va nous durer 10 ans. On l'aura acheté une trentaine d'euros et ce sera beaucoup plus rentable que les rasoirs en plastique qu'on jette en permanence et qu'on rachète pendant 10 ans.
Mais j'en ai un qui a 15 ans déjà, vous voyez, donc c'est ça.
Comme quoi.
Donc, Marie Cochard.
Oui, je pense que ce qui nous lie toutes et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la contrainte, ce qu'on pourrait s'imaginer être une contrainte, de trier ou de recycler ou même de se passer d'un réfrigérateur, c'est vraiment quelque chose qui va pousser à la créativité. Et c'est là que finalement on a envie de poursuivre, parce que sinon on se serait arrêté il y a belle lurette, c'est qu'il y a quelque chose de jubilatoire à essayer de transformer, à y parvenir. Il y a des échecs, hein, je ne vous cache pas qu'il y a de temps en temps quelques ratés, mais quand on y parvient, il y a une espèce de fierté à avoir réussi, à éviter la poubelle et à avoir quelque chose dont on connaît la composition et qui va être forcément meilleur, en tout cas plus sain, et on fait le petit colibri.
Il y a des hommes là qui n'évitent pas la poubelle, et ça va se faire un joli pas de côté, on va grimper quand même à plus de 8000 mètres d'altitude, c'est avec Luc Boinard. Vous allez comprendre pourquoi, parce que Luc Boinard, donc, il a créé son entreprise, West Acro, et puis là, j'ai sous les yeux un ouvrage qui va sortir d'ici 15 jours, qui s'appelle Altitude, c'est aux éditions Le Duc, et vous allez comprendre aussi comment ça fonctionne et ce que fait Luc Boinard. Bonjour Luc Boinard.
Bonjour. Alors on fait des travaux acrobatiques. Alors d'un point de vue plus politiquement correct, ce sont des travaux d'accès difficile à la corde. Pour faire très simple, on est alpiniste urbain et alpiniste industriel. C'est-à-dire qu'on descend sur les bâtiments, les ouvrages, et on travaille en rappel sur corde. Et on exécute des gestes techniques de maçonnerie, de nettoyage, de peinture, etc. etc. mais uniquement sur corde.
Et alors, j'ai entre les mains donc un ouvrage qui s'appelle Altitude, aux éditions donc Le Duc, qui vient de sortir. Et là, ça nous intéresse bien parce que vous avez cette passion de la montagne et vous êtes parti sur l'Everest. Qu'avez-vous fait sur l'Everest ?
Alors d'abord, j'ai réalisé l'un de mes rêves les plus profonds qui était ancré en moi. Et ça, c'est juste fondamental dans une vie de réaliser ses rêves les plus chers, parce que bah, on n'a qu'une vie, on sait qu'elle est très courte. Et donc les vrais, c'était un rêve de gosse. Et donc j'y suis allé d'abord pour satisfaire ce rêve de gosse. Et puis pour satisfaire mon profond respect pour l'environnement, parce qu'on sait que l'Everest, c'est la plus haute poubelle du monde, c'est la plus haute décharge du monde. Et donc, j'ai mené la première expédition française mondiale de dépollution de l'Everest.
Donc, lorsque l'on arrive sur l'Everest, on ramasse absolument tout. On ramasse des tentes, des duvets, des emballages, des bouteilles d'oxygène et même des cadavres aussi, car il y en a quand même un certain nombre qui sont là-haut. Comment on fait? Parce que quand même, quand on travaille entre 7000 et 8000 mètres d'altitude, ça doit quand même être assez costaud, quoi.
Alors déjà, les déchets, si on ne veut pas les voir, on ne les voit pas. Moi, j'ai croisé des expéditions qui s'étaient mis des œillères et qui refusaient d'aller voir les décharges que je leur montrais. Donc c'était vraiment une vocation d'investigation. J'étais un peu en mode journaliste, un peu en mode enquêteur des neiges, on va dire. Et j'ai vraiment identifié des zones de décharge assez terrifiantes. Alors effectivement, là-haut, dans la zone de la mort, au-dessus de 8000 mètres, les Sherpas travaillent avec l'oxygène et il faut, enfin voilà, il y a très très peu de gens qui sont capables d'aller là-haut sans oxygène. Déjà pour grimper, alors pour ramasser des déchets et en plus les redescendre avec 30 ou 40 kilos sur le dos, il vaut mieux avoir l'oxygène. Et puis c'était des petites équipes, hein, les Sherpas montaient avec des sacs à dos vides et puis ils chargeaient 30 kilos de déchets et redescendaient. Ils remontaient avec 30 sacs à dos vides et redescendaient et ainsi de suite.
Qu'est-ce que vous a apporté en fait cette expérience?
Ça m'a éclairé sur la nature de l'être humain qui est vraiment bête et qui prend pas suffisamment soin de sa planète et de son environnement. On le voit tous les jours, on le sait, tout le monde en a conscience. Il faut prendre soin de notre planète, il faut faire attention, il faut pas polluer, il faut. Enfin voilà, on le sait, le réchauffement climatique il est là, c'est une donnée, c'est scientifique, on peut pas aller à l'encontre de ces éléments-là. Au-delà de ça, même en Mayenne, dans mes fossés, quand je fais du vélo, je ramasse des déchets. Voilà, c'est partout. C'est impressionnant de bêtises.
Et alors, donc, même au sein de votre entreprise, là, vous faites aussi assez attention, vous avez quand même une éthique avec Westacro.
En fait, les interventions sur corde sont hyper décarbonées. C'est un métier où, en fait, notre émission de CO2, quand on intervient à la corde par rapport à un échafaudage qu'il va falloir transporter avec des gros camions, aller en centre-ville, même le coût carbone de la fabrication d'un échafaudage ou d'une nacelle sont énormes par rapport à la fabrication ou une intervention sur corde. Donc on a une vocation déjà, nous, très très environnementale dans notre approche métier.
Vous avez descendu une tonne, vous allez remonter de nouveau l'Everest? Non, peut-être pas, enfin, je sais pas.
Si, j'avais un autre projet qui était d'aller le faire côté chinois, ce coup-là. Parce que là-bas, on sait qu'il y a moins d'opérations de dépollution qui ont eu lieu, parce qu'en Chine, il y a beaucoup de tabous et donc il n'y a pas de pollution. Bon, ils s'ouvrent un petit peu, donc ils ont conscience que la face chinoise tibétaine est polluée. Après, c'est plutôt là une question d'éthique. Est-ce que je vais aller mettre les pieds en Chine pour dépolluer les vrais? C'est un autre sujet.
Voilà, donc notre petit pas de côté avec Luc Boinard. Je reviens vers vous, Flore Berlinghen, pour terminer, directrice de Zero West. Donc ce défi, rien de neuf, donc populariser les alternatives à l'achat et de produits neufs. Je veux dire qu'il y a quand même des choses qui évoluent. D'abord, on combat l'obsolescence programmée et accélérée. Il y a un changement de modèle où quand même la qualité va être obligée de revenir en force. On commence à le constater, là, ça.
Bah, oui, finalement, participer à ce challenge, bon, il y a l'aspect ludique de la chose, mais c'est aussi envoyer un signal, en fait, aux producteurs de biens. C'est un acte symbolique aussi de dire bah, moi je souhaite consommer autrement, je souhaite des produits qui durent et pas des produits qui me claquent entre les doigts.
Et avec une bonne éco-conception, voilà. À la base aussi.
Éco-conception et puis effectivement lutte contre l'obsolescence programmée parce que malheureusement c'est un fait avéré et pas que pour les produits auxquels on pense spontanément comme les produits électroniques, c'est aussi le cas pour les vêtements.
Les collants.
La solidité réduite de nombreux vêtements aujourd'hui, du t-shirt au collant effectivement, fait qu'on renouvelle sans cesse ses achats et l'impact environnemental au niveau des vêtements, il est vraiment considérable aussi. On en a moins l'idée parce que c'est moins impressionnant peut-être que d'autres types de produits. Donc finalement, s'engager dans un challenge comme ça ou dans une initiative collective, c'est aussi envoyer le signal aux producteurs qu'il faut qu'ils modifient leur méthode de production.
Alors, et ça, on s'inscrit, rien de neuf, c'est ça?
Riendeneuf.org, oui. C'est tout simple. Et ensuite, si on le souhaite, bien sûr, on peut recevoir chaque semaine une idée d'alternative vers laquelle se tourner quand on veut éviter d'acheter neuf.
Bon, très très vite. Alors, Aline et Marie, juste soit un petit truc, soit une petite idée, je vous en prie, Aline Gubry, donc avec zéro plastique, zéro toxique.
Oui, moi je voudrais rappeler que réduire ses déchets au quotidien, c'est en fait accessible à tous, de tous les points de vue, d'un point de vue financier, puisqu'on fait des économies, et d'un point de vue du temps, même quand on n'a pas de temps, qu'on travaille à temps plein, on a quand même le temps de, en 30 secondes, mais littéralement 30 secondes, fabriquer ses produits ménagers et ses cosmétiques.
Marie Cochard.
Juste une petite adresse, un site internet Chic Frigo Sans Fric, qui est mon binôme montréalais, ouais. C'est-à-dire une jeune femme qui propose des recettes de cuisine anti-gaspi, très originales. Et du coup, c'est aussi très positif et ça fait du bien de voir que, outre-Atlantique, il se passe aussi des choses partout.
Et merci donc à vous trois pour votre sourire et votre pêche. Hein. Je vous dis, toute jeune, 22 ans, une trentaine d'années chacune. Voilà, ça nous fait du bien, là où on a ouvert la fenêtre. Et un grand merci donc à vous, à Antoine Théboul et Florent Beauvalet à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, notre assistante, à Xavier Pessugia qui a réalisé l'émission, Muriel Pérez qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour, le téléphone, le répondeur 01 56 40 40 35 01 56 40 40 35. La tuile du Mont Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux, une rediff entre 5h et 6h, le Twitter chez Sou tout simplement. Et puis la semaine prochaine, je vous ai emmené dans la Biovallée. Ça c'est très intéressant, c'est dans la Drôme, c'est un lieu précurseur plein d'initiatives aussi positives en matière de bio. Et d'ailleurs, j'y serai aussi peut-être avec vous. Mercredi 17, nous serons à Heure dans la Drôme, à l'amphithéâtre Jean-Marie Pelt pour son inauguration. Je vous souhaite un excellent week-end.